Morning Edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Et que se passe-t-il désormais alors en Bolivie? Evo Morales est au Mexique, une femme assure l'intérim. Et maintenant, est-ce que le calme peut revenir ou au contraire? Est-ce qu'on peut imaginer de nouvelles élections dans 90 jours? Nous poserons la question à nos invités dans un instant. Le bruit du monde est en Bosnie qui, plus de 20 ans après la guerre, se débat toujours dans une situation économique très compliquée. Nous vous emmènerons dans une petite coopérative tenue par des femmes. Amélie Perrier, elle nous emmène à Montgomery, Alabama et sur la route avec un Cambodgien. 18h50, le cinéma en VO, c'est Eva Bétan qui a vu Noura Rêve, le portrait d'une femme dans la Tunisie post-révolution arabe dans laquelle subsiste une loi absurde sur l'adultère. 18h55, le monde à l'envers et Jean-Marc Four devant la télé, l'impeachment fait de l'audience. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Christine Delfour.
Bonsoir.
Vous êtes professeure des universités à Paris-Est, Marne-la-Vallée, spécialiste de la Bolivie. Bonsoir Hugo José Suarez. Vous êtes sociologue bolivien, vous êtes chercheur à l'Université nationale autonome de Mexique. Et on a de la chance puisque vous êtes en ce moment chercheur invité à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Ça tombe bien puisqu'il se passe un peu des choses en Bolivie. Si on essaye de au moins résumer la journée qui vient, les dernières heures en tout cas, il y a désormais une présidente par intérim en Bolivie. Elle s'appelle Jeanine Agnès. C'était la deuxième vice-présidente. On sait que tous les intérimaires potentiels, ceux prévus en tout cas par la Constitution, avaient démissionné. Est-ce qu'elle est légitime du coup? On va commencer par ça, Hugo José Suarez. Est-ce qu'elle est légitime, Jeanine Agnès, à son
oui,
poste?
Oui. À mon avis, moi je dirais que c'est légitime. C'est clair que c'est une situation compliquée et c'est une situation nouvelle. C'est pas exactement la même situation d'autres. Donc, c'est pas parce que on est vraiment dans une situation dans laquelle il n'était pas le pays comme ça. Donc, ils sont dus et prendre des décisions spéciales par rapport à des situations qui n'étaient pas déjà données.
Mais j'ai vu qu'il n'y avait pas eu de quorum, par exemple. C'est grave s'il n'y a pas de quorum ou pas au moment où elle est désignée. Je ne sais pas si on dit auto-désignée, si elle est désignée présidente par intérim, Christine Delfour.
Le quorum était théoriquement nécessaire. Voilà. Simplement, les députés, les sénateurs du MAS sont du Mouvement pour le Socialisme, qui est le parti de Evo Morales et qui était au gouvernement, ont décidé de ne pas y assister parce que leur protection n'était pas assurée aux alentours de la Chambre des députés et du Sénat. À ce moment-là, situation encore inédite, les sénateurs qui n'étaient pas du MAS ont désigné effectivement Madame Jeanine Agnès. Alors aujourd'hui, il semblerait qu'il y ait d'autres réunions aujourd'hui et que les députés du MAS envisagent d'aller à la prochaine réunion.
Alors l'important, j'ai envie de dire, c'est qu'il y ait quand même quelqu'un à la tête de ce pays. On verra après comment ça se passe. Est-ce que au moins ça, ça permet de calmer la rue, calmer un peu la rue, Hugo José Suarez, ou pas?
Oui, absolument. Et à mon avis, bon, ce qu'il faut dire, c'est que c'est clair qu'il n'avait pas le quorum, mais il avait une discussion de constitution entre des gens de constitutionnalistes il y a une sortie constitutionnelle encore pour arriver à avoir la présidente maintenant. Donc le chemin, c'est bien fait, disons, au niveau constitutionnel. Donc ça, mais ça, c'est une...
Donc ça, c'est déjà fait. Est-ce que c'est de nature à calmer la rue ou pas?
Là, pour l'instant, on dit que petit à petit, ça prend. Mais c'est clair que les prochains mois, ils vont être très, très, très bouleversés. Parce que c'est clair que maintenant, l'agenda qu'il doit avoir, la présidente, c'est un agenda très compliqué parce qu'elle doit...
organiser des élections, elle est obligée.
Et donc, c'est vraiment très compliqué. Il faut voir comment est-ce qu'il va arriver à ça.
Elle doit les organiser avant 90 jours, si j'ai bien compris, Christine Delfour. Donc, ça nous amène tout près du mois de janvier, à peu près à ce moment-là. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui en Bolivie de se dire oui, on peut organiser sans problème des élections d'ici là et rebattre les cartes, on va dire, dans l'ordre en fait.
Pour organiser des... Il y a pas mal d'éléments sur lesquels on ne peut pas répondre. Par exemple, le fait que au sein du MAS, va-t-il y avoir des candidats ou un candidat potentiel, par exemple? Parce qu'il ne faut pas oublier que effectivement, dans un cadre constitutionnel et que malgré cette situation inédite, pour l'instant, on arrive à cheminer vers quelque chose, par une certaine pacification, mais il y a 40% quand même des électeurs qui ont voté pour le MAS, qui aujourd'hui se trouvent orphelins de candidats. Mm-hmm. Donc, il y a ça aussi. Il n'y a pas simplement le fait d'organiser de la procédure électorale, bien sûr, peut-être enclenchée, mais il y a quand même des questions qui se posent. Et aujourd'hui, il y a des partisans du MAS et de certains mouvements sociaux du MAS qui appellent à la mobilisation.
Alors, le MAS, on va le rappeler, hein, mouvement vers le socialisme, oui. Le parti d'Evo Morales, on l'a déjà dit, mais il faut nous bien familiariser sûr. Un peu avec oui. tout ça. Est-ce que Morales pilote tout ça depuis le Mexique ou pas?
Je ne pense pas, enfin, je n'oserais pas dire qu'il pilote ça depuis le Mexique. Qui sait? Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre.
On peut répondre à ça
En tout cas, à mon avis.
Il est au courant, en tout cas.
Alors,
il est au courant. Il participe d'une façon très claire et il a vraiment une intention. C'est-à-dire, quand Evo Morales il est sorti, il a dit on va sortir seulement pour quelques temps et je veux revenir. Donc c'est vraiment la promesse de revenir. Et alors c'est pas le cas parce qu'en Bolivie on a vécu il y a 15 ans une situation plus ou moins similaire dans laquelle le président à ce moment-là c'était le président Gonzalo Sánchez de Lozada, mm-hmm. qui est parti aux États-Unis, il a renoncé et il a resté aux États-Unis et il a plus revenu dans le pays. Tandis que Evo Morales, dès qu'il est parti, avant de partir, il continue dans le jeu politique, soit de la façon internationale dans laquelle il dit écoute, ça c'est un coup d'État, parce que ça c'est un peu le discours très important.
Ça c'est ce qu'on dit effectivement d'un côté, c'est un coup d'État.
Et il est toujours là, ou soit avec en donnant finalement des lignes d'action aux députés.
Mais Christine Delfour, est-ce qu'il n'est pas parti trop vite, Evo Morales? Parce qu'effectivement, on entend certains députés dire qu'ils craignent pour leur vie. Lui-même disait la même chose. Est-ce qu'il n'est pas parti trop vite, ce président Morales?
Il semblerait qu'il soit parti effectivement un peu vite, mais peut-être aussi parce qu'il s'est rendu compte qu'au sein des mouvements sociaux qui le soutenaient, il y avait une partie des mouvements sociaux qui, précisément, n'allaient pas bouger mm-hmm. s'il ne partait pas, parce que la situation était trop complexe et que peut-être, effectivement, il pouvait y avoir des problèmes avec nombre de députés ou nombre de ministres et des représailles étaient très fortes des membres du gouvernement. Donc c'est possible, effectivement.
Moi, je dirais que dans le même sens que le problème, c'est que lui, finalement, il ne devait pas partir. Ce que lui, il devait faire au début, c'est dire on va aller au deuxième tour. Donc, si le 3 jours après l'élection, lui, il disait on va aller au deuxième tour, on n'aurait pas eu toutes ces problématiques maintenant.
Alors, ça, c'est sûr. Comment on explique, sincèrement, je vais le dire comme ça, qu'il est vrillé, en fait, Evo Morales? Ça a été un président extrêmement populaire à une période. Il a une longévité dans son pays qui est largement supérieure à celle des autres. Et là, d'une certaine façon, il vrille, il veut un quatrième mandat, il triche, les choses sont très claires sur entre ce premier et ce deuxième tour. Pourquoi il vrille, Evo Morales? Christine Delfour.
Je pense qu'il vrille tout d'abord par sa superbe et son orgueil et son autoritarisme qui est connu déjà. Mm-hmm. Et donc ceci lui a empêché de voir la réalité dans laquelle il était. Je crois que c'est l'élément principal. Et deuxièmement, il vrille parce qu'il est presque, si j'ose dire, dépassé par les événements. Il n'a pas pris conscience de ce qui se passe dans la rue. Il n'a pas pris conscience de la force des mouvements sociaux nouveaux, de ces jeunes. Donc, parce que c'est un mouvement urbain, c'est pas un mouvement rural. Donc tout de suite, il reprend les mécanismes de son discours en opposant les campagnes avec la ville. Or, ce n'est pas un problème mmh. d'opposition dans les campagnes, mais bien un problème d'opposition de jeunes urbains. Donc, il est complètement décalé d'une certaine façon et la situation lui échappe. Et comme gestion du politique mmh. qu'il a depuis qu'il est syndicaliste et autre chose, c'est le rapport de force. Et il ne comprend que le rapport de force et ne joue que le rapport de force.
Donc, il comprend pas le rapport de force et il sait pas lire son pays, au fond, Hugo José Suárez. Moi, je m'interroge, derrière, à quoi elle ressemble, cette opposition derrière Morales? Est-ce que, du coup, elle a réellement le vent en poupe? ou est-ce que le pays est toujours divisé? Il faut rappeler des choses qui sont quand même importantes. Les Amérindiens, dont fait parler Tim Morales, c'est 62% de la Bolivie. Donc il y a un certain nombre de critères et de choses qui sont importantes à rappeler. Est-ce qu'il y a derrière Morales une opposition désormais qui a le vent en poupe et qui est en train de retourner la Bolivie dans l'autre sens politique aujourd'hui?
Voilà. Et avant de répondre à cette question, moi, je voudrais revenir un peu autour de la question de Evo Morales. Je pense qu'un peu la gestion politique d'Evo Morales, même du début, il était autour de la construction d'un grand leader. Mm-hmm. Donc vraiment le pilier de la gestion, c'était lui. Donc un peu le problème, c'est que c'était pour lui de dire est-ce que si moi je pars, est-ce que la gestion va continuer? Mm-hmm. Et alors il n'a pas construit un processus de succession dans ces gens, et il n'a pas construit une institution si forte pour fonctionner et sans lui. Donc c'est pour ça que au moment dans lequel il dit la constitution dans lequel le référendum et le gens lui dit qu'il doit partir, lui dit je veux pas partir parce que sinon il a plus de projet. Voilà. Mais là il se trompe parce qu'à mon avis le projet il était déjà là même si il partait avant. Mais bon, mais par rapport à l'autre.
Alors l'opposition, il y a évidemment une opposition en Bolivie. Absolument. Est-ce qu'elle est de nature aujourd'hui? S'il y avait des élections demain, on va le dire comme ça, est-ce qu'on pourrait se dire la Bolivie peut basculer? Il y a une opposition de droite qui peut prendre le pouvoir aujourd'hui.
À mon avis, il y a dans un moment de trois orientations, mais qu'il faut voir vraiment comment ils vont se constituer parce que là, ça passe très vite. Mm-hmm. D'un côté, c'est le groupe de Evo Morales, c'est très important autour du MAS, du mouvement pour le socialisme. L'autre côté, c'est le mouvement plutôt politique. Qu'il était autour du président, du candidat à président Carlos Mesa.
Donc on est dans le centre-droit, grosso modo, avec Carlos Mesa.
C'est centre-centre, à mon avis.
Voilà. Okay.
Et je ne sais pas exactement si la droite, c'est très bien pour comprendre ça, mais en tout cas, moi, je dirais que le centre est très proche, finalement, au projet de Evo Morales à la fin.
D'accord.
Et l'autre partie, c'est le civique, que c'est la droite.
Et une droite qui ressemble à quoi? Si on veut la comparer, par exemple, avec d'autres pays, pardon de faire des comparaisons qui parfois sont compliquées, mais une droite qui ressemble à quoi, Christine Delfour?
Une droite entrepreneuriale, plutôt blanche, qui...
Est-ce que c'est une droite Piñera comme au Chili ou est-ce que c'est une droite Bolsonaro comme au Brésil?
Bien, écoutez, on a l'impression que c'est l'une et l'autre parce que finalement, c'est la droite de l'agrobusiness de Santa Cruz. Or, la droite de l'agrobusiness de Santa Cruz s'est très bien entendu avec Morales et Morales avec elle. Donc, il y a des comités civiques qui sont donc très, très conservateurs et qui aujourd'hui brandissent la Bible et la religion pour également essayer de réunir autour d'elle une grande partie de la population qui est malgré tout assez catholique en Bolivie. Et d'une certaine façon, Evo Morales aussi a utilisé la religion à sa façon, en créant de toutes pièces un candidat évangéliste d'origine coréenne, Chi. Donc chacun a utilisé la religion.
Pourquoi l'armée a-t-elle emboîté le pas de l'opposition, Christine Delfour? L'armée disant nous protégeons la Constitution puisqu'il bafoue la Constitution, nous la protégeons. Alors ça c'est une lecture. Pourquoi à votre avis est-ce qu'elle a l'armée et la police d'ailleurs a emboîté le pas de l'opposition et encouragé le départ de Morales?
Oui, d'abord la police avant l'armée, mais je pense que c'est une des premières fois en Bolivie et Hugo Rossé sera, je pense, d'accord qu'il y a une armée constitutionnelle. Et donc ça, pour moi, au contraire, c'était quelque chose de très positif et de rassurant, si j'ose dire, que l'armée jusqu'au bout de 2-3 semaines prenne position et dise finalement Evo Morales doit partir pour que le calme revienne.
Elle est dans son rôle, donc Hugo José Suárez, elle est dans son rôle, l'armée, à ce moment-là.
Je pense que oui.
Et il n'y a pas de risque qu'elle prenne d'autres proportions.
Non, moi je ne crois pas. Vraiment, je pense vraiment qu'il faut faire une sociologie de l'armée, mais avec beaucoup de... Il faut le faire parce que vraiment, les gens qui sont là, ce sont tout à fait différents dans la situation de dictature latino-américaine des années 80. Donc, ce n'est pas du tout la même armée. Et c'est une armée que maintenant, on voit clairement qu'il était une armée constitutionnelle.
Donc, j'allais dire, on attend la suite, Christine Delfour, très très rapidement. Théoriquement, avant 90 jours, nouvelles élections organisées, c'est le minimum qu'on peut dire, c'est ça, mais sans même savoir si c'est possible.
Oui, voilà, c'est tous les jours de nouveaux événements. Et voilà. Mais en tout cas, ce n'est pas un coup d'État, comme beaucoup ont l'air de le dire, soit du côté de l'opposition qui est aujourd'hui au pouvoir, soit du côté d'Evo Morales, c'était une insurrection populaire.
Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. On aura largement l'occasion d'y revenir, j'espère, en tout cas dans Un jour dans le monde. Merci mille fois. Merci à tous les deux.
Le 18-20, Fabienne Sintès, sur France Inter.
La suite d'Un jour dans le monde, ça se passe en Bosnie. On parle d'une coopérative lancée par des femmes bosniaques et serbes. Vous le verrez dans un instant. Le bruit du monde, la suite. Amélie Perrier, il se passe des choses qui comptent à Montgomery, Alabama.
Oui, c'est cette ville symbole de la lutte des Noirs pour leurs droits civiques. Eh bien, la ville a pour la première fois un maire noir.
À tout à l'heure, Amélie. Le cinéma en VO, Eva Béton. Avec vous, nous sommes dans la Tunisie post-révolution de 2011, en fait.
Voilà, avec le portrait d'une femme complexe, Noura.
Et on vous retrouve dans un instant, le monde à l'envers, Jean-Marc Four.
Bien, bonjour.
Vous aussi, vous êtes aux États-Unis, mais vous êtes devant votre télé.
C'est ça. L'impeachment de Trump, normalement, c'est une histoire de droit. En fait, c'est surtout un show télévisé.
Voilà, et une histoire d'audimat. Donc, allez, le tour de la planète continue. Il passe entre l'Angleterre et le Nigeria. Georgia Smith et Burna Boy. Ça s'appelle Be Honest sur France Inter. I know you want me. Every day not only when you're lonely. Yeah, you see you think you know me, but you don't even know nothing about me. Yeah. You see my thick thighs, lost when you look into my brown eyes. You see my little ways commit you switch sides. You never know the devil in a disguise. So why don't you stand up, baby? And tell me, do you want me on top? So let me show you.
Before you come my way, make sure you think twice. Look into my eyes, but I can never see eyes. I can point a gun, but you know I could never lie. Come through, I can show you something you can run to. When I'm finished, you'll be feeling brand new. We'll never be somebody you can run through. And I can put that on my life one time. No cap, big five, slow that, catch feels, get high. If you make your bed, then you can lie. Just be so much my time.
About the way your body twisting, make me lose control in a distant boy. And it's happy cause I'm thinking of us. Don't go throw me under the bus. Under respect, I'm under your love. I don't know why nobody want me. They say my baby today do me bad. Put your heart inside my goodie bag. If I do you bad, I beg you make you know do me bad. Give me one time, one try, be mine this time. Take time, same time, make we know they waste time. Girl, I never lied, you already know I
be honest.
Le bruit du monde ce soir est en Bosnie, dans la petite ville de Gorajde. Ce nom vous dit sans doute quelque chose. Gorajde a été durement frappé par le conflit dans les années 60, dans les années 90, pardon, assiégé pendant 3 ans par les forces serbes. Autour, beaucoup de villages ont même été rasés. Aujourd'hui, grâce au soutien du mouvement Slow Food, des femmes des différentes communautés serbes et bosniaques, anciennes réfugiées, ont fondé une coopérative basée sur les fruits et recettes locales, des produits très typiques. C'est une coopérative qui marche bien, qui intéresse les supermarchés, qui attire les touristes. Et le reportage est signé Louis Seyé.
On a Hier, on a passé la journée entière à peler les prunes à la main. Il y en a pour 15 kilos. C'est un processus lent, hein. Ça prend beaucoup de temps.
C'est le début de l'automne et dans leur cuisine en plein air, Yasmina et ses voisines sont au fourneau. Les femmes du village d'Ustikolina ne doivent pas rater la saison des prunes. Et pas n'importe quelle prune, la Slatko.
C'est
la meilleure prune parce qu'elle a des caractéristiques uniques et un goût très particulier. Elle n'a aussi pas besoin de pesticides ni d'arrosage. C'est presque un arbre sauvage. C'est vraiment un produit typique de la région et avec ses fruits, on peut faire de la rakia, du slatko ou du bestil.
Des légumes, des fruits en abondance et des produits typiques prêts à partir pour les supermarchés du pays. Difficile d'imaginer qu'il y a 25 ans, le village d'Ustikolina avait été rasé pendant les guerres de Yougoslavie.
Vous savez, après la guerre des années 90, il n'y avait plus rien ici. Tout avait été détruit et la végétation avait tout envahi. C'était vide. Ça a été très dur de se rendre compte que tout avait disparu. Donc quand on est revenu, on s'est motivé pour se réapproprier le village et cultiver à nouveau les prunes. On a beaucoup travaillé.
C'est après avoir visité des fermes en Italie que Yasmina a l'idée de lancer une coopérative dans son village. S'appuyer ensemble sur les recettes ancestrales et les produits typiques de la région, l'idée a rapidement plu aux femmes d'Ustikolina, comme sa voisine Maïda. Elle remue lentement une énorme quantité de confiture de prunes.
Dès le début, j'étais sûre que ça marcherait, car toutes nos recettes sont de très bonnes recettes. Elles sont traditionnelles et faites maison. Il n'y avait pas de raison que ça ne marche pas.
Si la coopérative Emina rencontre aujourd'hui le succès, c'est aussi grâce au mouvement Slow Food italien. Eugenio Berra travaille dans les Balkans pour promouvoir une agriculture locale, respectueuse de la nature comme des humains.
La désindustrialisation et la perte d'emplois dans les usines où travaillaient les hommes, la guerre, surtout dans des pays comme la Bosnie ou le Kosovo, c'est ce qui a entraîné cette situation. Cette situation où ce sont surtout les femmes qui se sont retroussées les manches et qui ont essayé de redonner vie à leur communauté.
25 ans après, les traumatismes de la guerre pèsent encore lourd en Bosnie. Revenus dans leur village en ruine, ce sont les femmes qui ont pris les choses en main en mettant les divisions de côté. Eugenio Berra.
L'homme a tendance à être la figure la plus passive. C'est lui qui a peut-être souffert le plus de ce processus de transition économique. Et dans le cas de la coopérative Emina, il y a beaucoup de femmes, des femmes seules qui ont perdu leur mari à la guerre ou dans les années qui ont suivi le conflit. Elles se sont retrouvées seules et ont dû penser à l'avenir de leurs enfants et de leur famille.
Paprika.
Eugenio amène régulièrement dans le village des touristes italiens curieux des spécialités locales. Ses revenus sont précieux pour les femmes d'Ustikolina comme Yasmina. Chômage, pauvreté et népotisme, le quotidien dans la Bosnie de 2019 n'est pas facile.
La corruption, il y a trop de corruption malheureusement. Peu après la guerre, la situation n'était pas aussi terrible. Mais avec les années, ça a été de pire en pire. Les gens doivent se battre seuls, parce que les politiciens ne pensent qu'à leur propre intérêt. Aujourd'hui, on ne peut plus vivre de son propre travail.
Ans après la fin de la guerre, la Bosnie reste paralysée par des institutions qui ont entériné les nettoyages ethniques des années 90. Les partis nationalistes gardent la main sur le pays et n'offrent aucune perspective d'amélioration. La jeunesse, elle, va voir ailleurs. 170 000 Bosniens ont quitté le pays ces 5 dernières années.
Louis Seyé pour le reportage. Merci beaucoup, Louis. Le bruit du monde quand il passe sous les radars, c'est une Camille Perrier, là.
Et pourquoi on entend du bluegrass, Amélie Perrier? Parce que on est à Montgomery, dans l'Alabama, et que Montgomery vit un moment historique.
Montgomery, ville du sud des États-Unis, ville symbole de la lutte des Noirs pour les droits civiques. C'est à Montgomery que Rosa Parks, en 1955, a refusé de laisser son siège à un blanc dans un bus. Elle sera condamnée à une amende. Et c'est ce qui va pousser Martin Luther King à lancer un mouvement contre la ségrégation. La Cour suprême des États-Unis déclare inconstitutionnelle la ségrégation dans les bus d'Alabama l'année suivante, en 1956. Ce qui s'est passé hier soir est une autre page d'histoire.
Repeat after me. I.
I.
Give your name.
Stephen Lewis Reed.
Do solemnly swear.
Do solemnly swear
that I will support the Constitution.
That I will support the Constitution.
Voilà Stephen Reed qui prête serment. Il est devenu le premier maire noir de la ville. Le mois dernier, ce magistrat avait obtenu 67% des suffrages. Montgomery, 200 000 habitants, où 60% de la population est noire. Et pourtant, jusqu'à ce mois de novembre 2019, tous les maires étaient des blancs. Et Stephen Reed n'est pas que noir, c'est aussi un magistrat, l'un des premiers juges d'Alabama à avoir accordé des certificats de mariage à des couples homosexuels en 2015. Il est enfin le fils de Joe Reed, le dirigeant de longue date de la Conférence démocrate d'Alabama, l'organisation de défense des Noirs la plus puissante de l'État. Joe Reed a lui aussi prononcé un discours hier soir, très applaudi, le discours d'un père ému et d'un militant qui voit son combat avancer aujourd'hui grâce à son fils, 57e maire de Montgomery, Alabama.
Et l'histoire maintenant, rien à voir, Amélie. D'un opposant cambodgien, il a entrepris une route tortueuse pour rentrer dans son pays.
Il s'appelle Sam Rainsy, c'est l'ennemi public numéro 1 du premier ministre cambodgien Hun Sen, au pouvoir depuis 34 ans, qui a dissous l'opposition et s'est attribué, par exemple l'été dernier, tous les sièges au Parlement. Sam Rainsy vivait en exil en France depuis quelques années pour échapper à des mandats d'arrêt émis contre lui, des procès politiques, a-t-il dénoncé. Malgré tout, il a annoncé vouloir rentrer dans son pays. Au départ, c'était pour la fête de l'indépendance, le 9 novembre. Mais le Cambodge lui a fermé ses frontières et a même fait pression sur la Thaïlande voisine pour qu'il ne puisse pas y transiter. Alors Sam Rainsy s'est envolé pour la Malaisie où il a été reçu au Parlement hier. Voilà ce qu'il déclare à sa sortie. Nous ne sommes pas des criminels. Nous sommes des démocrates, des combattants pour la liberté. Et ici en Malaisie, nous avons beaucoup d'amis, beaucoup de personnes qui pensent comme nous. J'exprime ma grande gratitude aux autorités malaisiennes. Et là, une journaliste lui demande s'il a renoncé à rentrer au Cambodge. Sam Rainsy répond « Non, on va trouver une autre voie pour aller au Cambodge. Je vais rester dans la région parce que la situation peut changer très, très rapidement. » Un optimisme douché aujourd'hui. Il annonce son départ de Malaisie pour l'Indonésie et on apprend cet après-midi que finalement l'accès à l'avion lui a été refusé. Il va falloir trouver encore une autre route vers le Cambodge.
Et puis, l'intelligence artificielle ne peut pas tout faire. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on croit.
Alors, peut-être que si. En tout cas, l'intelligence artificielle est aussi en train de voler le travail des artistes.
200 million, please. 200 million is bid. Give me 10. At 200 million is bid. 200 million is here. $400 million is the bid, and the piece is sold.
Alors, on n'atteindra certainement pas ce record de 400 millions de dollars pour le Salvator Mundi de Léonard de Vinci, mais la maison Sotheby's à New York espère faire un gros coup en vendant 2 toiles peintes par une intelligence artificielle. Ce n'est pas une première. L'an dernier, un tableau était parti pour 432 500 dollars, 60 fois l'estimation basse de la maison d'enchères. Après-demain, c'est le même collectif français Obvious qui espère atteindre des sommets avec la baronne de Bellamy. C'est une sorte de portrait très classique, hein. Et une autre toile dans le style d'une estampe japonaise réalisée à chaque fois grâce à un programme informatique. Cette fois, les fourchettes d'estimation sont modestes, entre 8 et 30 000 dollars. Évidemment, il y a des détracteurs. Un ordinateur ne sera jamais un artiste, mais les créateurs et les acheteurs de ces tableaux cherchent souvent davantage la prouesse technologique, une prouesse commerciale aussi, vu les montants aux enchères.
Allez, Amélie, on se met à la peinture tout de suite. Merci beaucoup. À demain. Tiens, un grand classique avant de parler cinéma. Donovan, Sunshine Superman.
Sunshine came softly through my window today. Could have tripped out easy, but I've changed my way.
time, I know it.
Donovan sur France Inter, Sunshine Superman. Eva Béton nous attend à Voran, s'il vous plaît.
France Inter.
Un jour dans le monde.
Il est tunisien ce soir, le film Eva, oui. Ça s'appelle Noura Rêve, signé In Boujema. C'est le portrait de, c'est portrait de, un portrait de femme dans la Tunisie post-révolution, donc post-2011, dans laquelle subsiste une loi complètement absurde sur l'adultère et dans laquelle aussi le contrôle social, le contrôle moral continue de peser sur les femmes.
Voilà, alors une chose qui est très intéressante dans ce film, c'est qu'on a l'impression à tout moment qu'on découvre des choses. C'est pas un spectral sur la Tunisie, pas du tout. C'est des éclats, des bouts de vie et en même temps c'est complexe et on demande ce que c'est la réalité multiple. Prenez Noura, elle travaille dans une à la lingerie de l'hôpital. C'est la pauvreté, pas la misère. Elle est courageuse et aussi menteuse. Son mari est en prison et elle a un amant. C'est une femme libre et en même temps, par touche, la société va la culpabiliser de vouloir divorcer. Et quand son mari sort de prison plus tôt que prévu, elle enlève son vernis à ongles rouges, elle attache ses cheveux, il reprend sa place d'homme, elle s'éteint. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que les deux acteurs principaux sont des stars dans le monde arabe, qui ne connaissaient pas ou pas bien, et qui sont ici utilisés à contre-emploi. Anne Sabri, c'est celle qui joue Noura, est une star du cinéma arabe, notamment en Égypte, et elle joue une femme du peuple sans maquillage, et le mari délinquant, eh bien il est joué par Lofti Abdelli, qui est une star du stand-up en Tunisie. Donc la vie, si vous voulez, elle vient de cette impression de complexité, qu'il n'y a pas de stéréotypes type dans la manière de montrer le réel, d'où cette question, y a-t-il un nouveau cinéma qui est en train d'éclore en Tunisie, In Boujema?
On est le fruit d'une génération qui a dû se taire pendant très longtemps et qui a été privée par le système, par la dictature et par le copinage de faire des films. C'était toujours les mêmes qui avaient, comment dire, les fonds pour faire les films. Et donc on a eu un creux générationnel dans le cinéma. Or, nous, à la Révolution, on les a culpabilisés, et à raison, ce qui est arrivé en leur disant « Maintenant, vous nous avez beaucoup privés de cette liberté d'expression, repoussez le Ben Ali de la culture, créez une autre. » Et à partir de là, l'État a, en créant le CNCI, le Centre National du Cinéma et de l'Image, a eu une réelle politique d'investissement. Et moi, je dirais qu'il y a la même chose en Algérie avec des paramètres différents, parce que la Tunisie, c'est pas l'Algérie non plus, et ce n'est pas le Maroc non plus, et en termes de loi, et en termes de fonctionnement, et on est quand même, de toute façon, maintenant, la seule démocratie dans le monde arabe, et une démocratie, ça implique qu'il y a plus de liberté par rapport aux autres pays, donc on a plus de facilité. Mais il y a eu quand même une réelle volonté de l'État de financer l'art. Et quand on finance l'art, on attire les créateurs, les réalisateurs, et donc il y a ça qui s'est passé, je pense.
Voilà, il est question dans ce film d'une loi, donc on le disait tout à l'heure, Eva, qui punit donc l'adultère en Tunisie.
Oui, et elle va servir de ressort dramatique, d'un ressort dramatique important dans ce film. C'est une loi qui condamne les couples adultérins à la prison. Que ce soit un homme avec sa maîtresse ou une femme avec son amant, c'est-à-dire égalité en quelque sorte. Alors, Ine Boujema dit que cette loi n'est pas tellement appliquée, pas systématiquement, loin de là, mais néanmoins elle existe. Et c'est d'autant plus paradoxal que la Tunisie n'est pas rétrograde au niveau des lois, dit-elle. Écoutez-la.
Les lois en Tunisie sont hyper modernes. Et je crois qu'il n'y a eu aucune loi qui enfonce la femme. Au contraire. Par exemple, dans le mariage, et je dis bien dans le mariage, la femme, si l'homme ne fait pas de courses à la maison et ne donne pas d'argent au ménage, si la femme ne travaille pas, elle a le droit d'aller porter plainte dans le mariage. Là, on ne parle même pas de divorce. Et l'État force le mari à donner un pourcentage de son salaire à la femme pour qu'elle entretienne la maison. Vous connaissez beaucoup de pays qui ont cette loi-là. Elle existe chez nous. La problématique en Tunisie n'est pas la loi. C'est le regard de la société qui empêche la pression sociale. Que va penser mon père de moi ? Que va penser ma mère ? C'est une société patriarcale et matriarcale à la maison, et on n'entre pas beaucoup en opposition jusqu'à leur mort avec les parents.
Allez, ça s'appelle Noura Rêve.
Je ne fais pas le coup de Tunisie Terre de Contraste, non, bah, mais c'est très bien filmé.
Oui, et elle en parle très très bien.
Très bien, et elle est filmée,
en tout cas. Et donc c'est aujourd'hui, mercredi, que ça sort sur les écrans, évidemment. Merci beaucoup, Eva Béton.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, c'est parti donc depuis 3 heures les
depuis
auditions
16 heures françaises.
Voilà, les auditions publiques et télévisées devant le Congrès américain ont débuté dans la procédure d'impeachment de Donald Trump. L'opposition démocrate espère démontrer que le président a commis un abus de pouvoir. Mais pour vous, c'est pas le droit qui va décider de l'issue de cette affaire, c'est le spectacle et c'est votre monde à l'envers.
En théorie, c'est du droit quand même, rien que du droit. Une procédure définie par la Constitution américaine. Il s'agit de répondre à des questions, somme toute, assez simples. Donald Trump a-t-il abusé de sa position en essayant de soutirer à un pays étranger, l'Ukraine, des informations à des fins personnelles sur l'un de ses rivaux politiques, Joe Biden? Et accessoirement, a-t-il cherché à entraver le cours de l'enquête du Congrès américain sur le sujet? Les auditions publiques qui viennent de démarrer ne devraient pas en fait apporter de révélations nouvelles, tout bonnement parce que tous les témoins convoqués, en commençant cet après-midi par le chargé d'affaires en Ukraine, William Taylor, se sont déjà exprimés à huis clos devant la commission du renseignement, et tout a filtré. Et vu ce qui en ressort, il y a fort à penser que Donald Trump, en effet, a cherché à abuser de sa position de chef de l'État. Ça sera probablement la conclusion juridique de la Chambre des représentants à majorité démocrate, lors d'un vote qui est envisagé avant Noël. Le problème, c'est la suite. Petit flashback. Des 3 procédures précédentes d'impeachment dans l'histoire américaine, la plus proche dans la nature des faits reprochés, c'est celle qui avait visé Nixon, le Watergate. À l'époque, le président avait préféré démissionner. Mais cette fois, ça n'arrivera pas parce que Trump, il est persuadé de n'avoir rien fait de mal. Et pour lui, on va dire que l'état de droit est une notion assez floue. Selon toute probabilité, il embarquera son parti avec lui, les Républicains, majoritaires au Sénat, qui ne voteront donc pas l'impeachment dans la foulée de la Chambre des représentants. Fin de la procédure. On se résume du point de vue juridique, ces auditions publiques ne vont sans doute rien changer.
La clé, c'est davantage l'état de l'opinion publique américaine, en fait.
Oui, et ça, c'est pas une question de droit. C'est lié au déroulement du show télévisé qui vient de démarrer. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Une chorégraphie devant toutes les caméras, un spectacle retransmis en live, en l'occurrence depuis 3 heures, par quasiment toutes les grandes télévisions américaines. Il s'agit, finalement, comme dans un jeu télévisé, d'être le meilleur, le plus convaincant pour l'emporter. Dans ce match, il y a 2 acteurs majeurs. Côté démocrate, le chef de la commission du renseignement, Adam Schiff, il s'y connaît en spectacle, c'est un Californien au sang-froid qui a écrit plusieurs scénarios policiers pour Hollywood. Et côté républicain, évidemment Donald Trump, même s'il n'est pas physiquement présent aux auditions, son fil Twitter lui suffit pour dénoncer le, je cite, 100% crapuleux Adam Schiff. L'enjeu de ce show, vous l'avez dit, c'est l'opinion publique américaine. Aujourd'hui, une légère majorité d'Américains est favorable à la procédure d'impeachment, mais l'électorat républicain demeure très solidement derrière Trump. Si ce socle se fragilise devant ces images, si la chaîne conservatrice Fox News se met à douter, alors certains sénateurs républicains, ceux qui ont besoin de l'électorat centriste pour être réélus l'an prochain, pourraient s'interroger. Et l'hypothèse d'un impeachment voté par le Sénat ne serait plus farfelue. Ça n'a rien à voir avec le droit, c'est juste lié à la performance des acteurs du show.
Donc ce que vous dites, c'est que celui qui gagne le jeu télé sera celui qui gagnera la procédure.
En fait. même pas sûr en fait, parce que Donald Trump a encore une cartouche en réserve pour conserver son socle électoral et donc éviter l'impeachment. Les réseaux sociaux. En fait, il n'a pas besoin d'avoir la majorité au niveau national pour être réélu l'an prochain. Faut bien comprendre ça. Vu que les États moins peuplés et plus ruraux, qui lui sont favorables, ont un poids relatif plus important, Trump pourrait même gagner avec seulement 46% des voix au niveau national l'an prochain. Il lui faut seulement consolider son socle dans les États clés. Donc, il inonde ce socle avec des publicités ciblées. 20 millions de dollars dépensés depuis le début de l'année rien que sur Facebook. 30 millions d'appels automatisés sur les téléphones. Et de nouveaux spots publicitaires lancés aujourd'hui pour dénoncer l'escroquerie de l'impeachment. Sur ce terrain, Trump a beaucoup d'avance sur tous ses rivaux. Le soutien populaire via les réseaux sociaux, ça a pour lui beaucoup plus de sens et de valeur que tous les arguments de droit. Et pour une grande partie de son électorat, ça va même plus loin. L'état de droit est un danger, l'outil d'une sorte d'élite déconnectée du réel. Donc, pour avoir une chance de faire aboutir la procédure, l'opposition démocrate n'a d'autre choix que d'entrer dans ce jeu, séduire par le show, quitte à perdre de vue un peu le droit. C'est un piège, mais c'est comme ça.